France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, les animaux de la ferme. Épisode 2, rébellion de poules. Un dimanche matin, Bril Babil déclara que les poules qui venaient de se remettre à pondre devraient donner tous leurs œufs. Napoléon avait conclu un contrat portant sur 400 œufs par semaine. Entendant cela, les poules élevèrent des protestations scandalisées. C'est par ce paragraphe que débute le passage consacré à la révolte des poules dans la ferme des animaux d'Orwell. Les poules représentent dans le récit les petits propriétaires qui refusent la collectivisation. Napoléon Staline veut s'approprier leurs œufs pour les vendre à l'extérieur. Mais les gallinacés refusent que le fruit de leurs entrailles soit utilisé pour le développement du commerce international plutôt que pour la ferme. Elles décident donc de lâcher leurs œufs depuis le haut de leur perchoir, les faisant s'écraser par terre. Encore un que les cochons n'auront pas. C'est à ce moment-là du livre d'Orwell que Napoléon Staline apparaît dans ses véritables habits de tyran. Pour les faire plier, il choisit en effet d'affamer les poules. Autrement dit, il s'en prend à sa propre population, à ces animaux de la ferme qu'il est pourtant censé libérer du joug de l'ancien régime et de la domination des puissants. Les poules, elles, refusent d'être des machines à pondre dans une ferme qui se change en industrie où tout est pensé pour un maximum de rendement. Mais voilà, les poules ne peuvent pas tenir longtemps sans nourriture. Et après quelques jours de résistance, elles n'ont d'autre choix que de se remettre à pondre. Entre-temps, 9 d'entre elles sont mortes dans le conflit. Cet épisode rappelle les grandes révoltes paysannes des années 30 en URSS et les famines organisées par Staline en Ukraine. On peut également le lire comme une lutte féministe puisque ce sont des poules et non pas des coqs qui se révoltent. De plus, elles le font afin qu'on leur laisse leurs œufs, c'est-à-dire en quelque sorte pour garder leur intégrité corporelle.
Ne peut-on pas abaisser également le prix de revient des œufs par une alimentation plus économique ?
Pour qu'une poule ponde son maximum, il lui faut une alimentation de force, ne comprenant que des denrées de qualité. On peut certes réaliser de ce côté une économie, mais ce n'est que par un abaissement du prix des tourteaux d'arachide et des céréales, principalement de l'avoine, que l'on obtiendra des œufs à meilleur prix.
Mais pourquoi Orwell a-t-il choisi cet animal-là en particulier, la poule, pour incarner le petit paysan soviétique ? Peut-être parce que la poule a longtemps été le premier animal des petits paysans, voire même des ouvriers qui disposaient d'un poulailler dans leur jardin. La poule est en effet accessible aux petites bourses. Elle n'est ni prestigieuse, ni vraiment coûteuse à nourrir. En plus, elle produit un œuf tous les jours, ce qui constitue un petit rendement, mais un rendement tout de même, un rendement de petit propriétaire. En fait, la poule, c'est la richesse des pauvres.
Quel est le comportement de la poule à l'intérieur d'une basse-cour ?
Oh, à l'intérieur d'une basse-cour, alors il faut se retourner, si vous voulez, dans les souvenirs d'enfance, ou presque, puisque tout cela a complètement disparu maintenant. Eh bien, nous voyons alors, dans le cadre du cours de la cour de la ferme, monsieur, le coq qui est là, qui va trôner au milieu de ses poules, ça. Et elles sont là, picorées de droite et de gauche, n'est-ce pas, allant sur les fumiers et ailleurs, ce qui leur permet d'ailleurs de satisfaire tous leurs besoins d'une façon souvent magnifique, y compris la vitamine B12 qu'elles vont trouver, n'est-ce pas, sur le fumier avec les bouses de vache. Elles sont là, et elles nichent en général un peu partout, quelquefois. On leur consacre cependant des poulaillers qu'elles fréquentent d'une façon plus ou moins régulière, et elles pondent leurs œufs souvent d'une façon erratique dans les mâles ou ailleurs. Quand même quelquefois dans leur poulailler. Mais c'est là, cela appartient, on peut dire, à un passé absolument révolu. Mais elles font partie de...
L'attitude du coq est toujours la même, quand même.
Ah, toujours. Toujours lui, assez fier, quand même, au milieu de son harem, si j'ose dire.
Xavier Galmiche, vous êtes professeur à la faculté des lettres de Sorbonne Université, spécialiste de la littérature d'Europe centrale, et vous avez obtenu le prix décembre en 2022 pour votre livre Le poulailler métaphysique, un ouvrage dans lequel l'observation de vos poules provoque chez vous de nombreuses questions, y compris donc métaphysiques. Alors, quelles questions provoque précisément l'observation de vos poules ?
Le
spectacle des poules, d'abord c'est un spectacle, un vrai spectacle. C'est-à-dire il y a du drame, il y a de l'action. En général, on n'a pas qu'une poule, on en a plusieurs. Et donc il y a un système passionnel, disons, de hiérarchisation, de jalousie, de captation. Un épisode très important de la dramaturgie, c'est la captation des œufs, puisque les poules ne sont pas programmées, peut-être elles ont été déprogrammées, couver leurs propres œufs. Il y a beaucoup de poules qui abandonnent finalement le soin de la couvaison à quelqu'un d'autre.
Est-ce que vous diriez que ce qui se passe dans un poulailler ou dans votre poulailler relève du tragique ?
Alors, du tragicomique, évidemment, puisque c'est le deuxième aspect du théâtre. Cela donne l'occasion à des vraies scènes de ménage, mais de ménage à 2, 3, jusqu'à 25, autant qu'on a de poules et de coqs. Oui.
Alors, en quoi est-il métaphysique, ce poulailler ?
Alors, le spectacle des poules, on l'entendait tout à l'heure dans l'extrait de La ferme des animaux, un effet immédiat, c'est-à-dire que c'est un animal qui est tellement proche de l'humain et qui a été d'une certaine façon sectionné de l'ordre naturel que on y retrouve forcément un miroir de soi-même.
Pourquoi est-il si proche de l'humain ? Vous voulez dire qu'il vit très proche
de l'humain ? Il vit très proche de l'humain. On sait qu'il c'était un animal du désert à l'époque, qu'il a été donc vraiment domestiqué et qu'il a cessé de voler en particulier. Donc il a décroché d'une certaine façon de l'ordre naturel. Et donc le raisonnement anthropomorphique est presque naturel. Et donc on y reconnaît à la fois des aspects lamentables de notre vie quotidienne et aussi une sorte d'interrogation métaphysique. On a en fait le comportement de la poule et en particulier son comportement, ses mouvements, en particulier cette façon très spectaculaire des poules de se secouer, la secousse des poules nous fait penser par des analogies dont nous sommes peut-être pas responsable, qu'elle se pose des questions. Et si elle se pose tellement de questions en levant la tête, c'est que forcément ce sont des questions graves.
Pour la première fois depuis l'expulsion de Jones, il y eut une sorte de révolte. Sous la conduite de trois poulets noirs de Minorque, les poules tentèrent résolument de faire échec aux vœux de Napoléon. Leur mode de résistance consistait à se jucher sur les chevrons du comble, d'où les œufs pondus s'écrasaient au sol. La réaction de Napoléon fut immédiate et sans merci. Il ordonna qu'on supprime les rations des poules et décréta que tout animal surpris à leur donner fût-ce un seul grain serait puni de mort. Les chiens veillèrent à l'exécution de ces ordres. Les poules tinrent bon 5 jours, puis elles capitulèrent et regagnèrent leur pondoir. 9 d'entre elles, entre-temps, étaient mortes. Whimper n'eut pas eu vent de l'affaire et les œufs furent livrés en temps voulu. La camionnette d'un épicier venait les enlever chaque semaine.
Est-ce que vous pensez que Orwell a eu raison de choisir la poule pour représenter le petit paysan russe ? Est-ce que ça correspond à quelque chose que vous pouvez voir dans votre poulailler, Xavier Galmiche ?
Oui, il y a quelque chose de la petite épargne. Je pense qu'effectivement, la production régulière, c'est pas tout à fait un œuf par jour, d'ailleurs. C'est un peu moins. On peut essayer de pousser par des produits chimiques dont je réprouve l'usage. Mais il y a quelque chose du petit épargnant. Cela dit, Orwell a repris un code des apologues, donc des fables, qui est un code très ancien et qui, de ce point de vue, n'est pas du tout original. Et je pense qu'il comptait là-dessus, c'est-à-dire c'est un système symbolique bien ancré dans notre code culturel.
L'émission de France Culture, Les Nuits Magnétiques, s'intéressait à tous les sujets et en particulier à ceux qui paraissaient les plus éloignés de l'actualité. On n'est donc pas étonné de trouver dans la salle des archives un numéro de cette série simplement intitulé « La poule » à la date du 9 avril 1980. C'était le producteur et poète Jean Dève qui s'était attelé à ce sujet. Sa manière d'interroger ses invités entre le sérieux et l'absurde était souvent féconde, mais elle déstabilisait parfois. Exemple avec le professeur Terré, ingénieur agricole, qui ne s'en sort pas si mal.
Une journée de poule, qu'est-ce que c'est ?
La journée de la poule, correspond au jour. Là, dès qu'il commence à faire jour, la poule commence à s'activer. Elle cherche à sortir de son poulailler. Elle se répand dans la nature. Elle va chercher à manger. Et puis, si elle a des poussins, elle les entraîne un petit peu partout. Et puis, une poule, ça passe ses journées à manger et à avoir éventuellement des altercations avec les autres poules de l'endroit. À éviter les dangers, à se soumettre au coq dominant qui va passer par là, mais les poules ne semblent pas avoir une énorme sensualité. Vraiment, quand un coq arrive, il en fait à peu près ce qu'il veut, surtout si c'est le coq dominant de la basse-cour, mais la poule semble extrêmement indifférente pendant le cours des opérations.
Et puis, ça se passe comment, ces opérations ?
Oh, ça se passe... Le coq commence par faire une pariade au cours de laquelle il plie une aile, il se penche sur le côté, il fait une sorte de danse en rond en boitant autour de la poule. Quand la poule le prend en considération, elle s'immobilise, le coq lui saute sur le dos. Assez curieusement, avec son bec, il attrape les plumes qui sont situées derrière la tête. Et puis là, il pèse sur elle, la poule s'accroupit. Et ensuite, il lui frotte le croupion. J'ai d'ailleurs jamais très bien compris comment les oiseaux réussissaient à se féconder, parce qu'ils n'ont pas du tout un dispositif pénis-vagin comme en ont la plupart des autres animaux supérieurs. Ils ont simplement deux orifices qu'ils mettent vaguement en contact. Et pendant un très court instant, des fois, chez les poules, ça dure un petit peu plus longtemps, mais chez certains oiseaux, ça dure quelques dixièmes de seconde seulement. Et ça suffit malgré tout à assurer la procréation de l'espèce.
La question sexuelle est vraiment une question très importante. Et personnellement, j'ai longtemps cru qu'il suffisait d'une sorte d'approche. J'ai été déformé par le catéchisme, à vrai dire. Et donc, j'avais une vision éthérée de la sexualité. Mais effectivement, quand j'ai eu des poules, je me suis aperçu qu'il y avait ce moment très mystérieux d'une sorte d'étreinte extra rapide. Et on se pose, bien sûr, la question du contentement de l'un. Manifestement, le coq y revient. Je l'ai remarqué. C'est anecdotique. Il revient souvent à des poules qui nous semblent laides. Elles sont souvent déplumées parce qu'elles ont été beaucoup courtisées et honorées. Et il y a quelque chose d'une sorte d'accoutumance. C'est très étonnant. Il y a des préférés, il y a des prima donna dans le poulailler.
Et vous ne savez pas ce qui les distingue des autres? Est-ce qu'ils font qu'elles sont mises sur un piédestal?
Sinon qu'elles me paraissent plutôt plus amochées que les autres. Et l'endurance est une vraie question. J'ai vu des poules vraiment harcelées qui décidaient de fuir ce commerce. Vous voyez, c'est Bernardin de Saint-Pierre qui raconte que le coq coche 25 à 30 fois par jour. Et donc, si vous avez plusieurs coqs et si ça se concentre sur la même, on la comprend. D'où effectivement l'interprétation très anthropocentrique d'une sorte de féminisme inné.
Jean Dève, interrogé sur la journée de la poule, est-ce que vous aussi vous regardez s'écouler les heures dans l'emploi du temps de vos poules et qu'est-ce que vous pouvez en déduire ?
Alors, il y a une chose qu'il n'a pas mentionnée, c'est la question du parcours. Dès qu'elles ont un peu d'espace, elles installent un parcours. Et avec une certaine régularité, elles visitent, donc elles font le tour des lieux, elles ont des nids alternatifs. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on a parfois des soucis de récolte des œufs. On ne sait plus où elles les ont mis. Et finalement, on les trouve parfois un peu trop tard.
Est-ce qu'il y a des rapports hiérarchiques dans votre poulailler entre les poules, les coqs ?
Il y a bien sûr des hiérarchies entre coqs et ensuite des hiérarchies entre poules avec cette concrétisation que j'ai lue, je crois que c'est Bernardin de Saint-Pierre, chaque poule dominante pique au moins une fois chaque poule dominée. Donc celle qui est, j'ai en ce moment 25 poules à peu près, donc je suppose que la dernière se fait piquer 24 fois par jour.
Retournons jeter une oreille à cette émission de Jean Dève, efficacement intitulée, je le rappelle, La Poule. Nous l'avons dit, Jean Dève était le prince des questions absurdes, mais qui tombait souvent juste, car elle forçait son interlocuteur à être imaginatif. Ce genre de questions un peu vagues a longtemps été une marque de fabrique des interviews sur France Culture. Il est même arrivé que des personnes mal intentionnées s'en moquent. Pourtant, elles avaient une vertu qui était de ne pas enfermer l'invité dans une question trop précise et de lui laisser l'espace de dire ce qui lui semblait le plus important et le plus intéressant. Elles n'étaient pas non plus des questions complètement absurdes. C'était simplement des questions très ouvertes, posées d'une façon qui soulignait l'incongruité qui apparaît à certaines choses si on les regarde avec un peu de distance. C'était une manière de dire « le monde est absurde, tant mieux, profitons-en ». Sauf que parfois, un peu comme les comiques qui ne peuvent pas s'empêcher de rire à leurs propres blagues, Jean-Dève avait du mal à garder son sérieux.
Monsieur le professeur, que veut dire cocorico ?
Je ne connais pas le langage des coqs, n'est-ce pas ? On peut l'imiter, mais sans savoir exacte signification, je ne sais pas.
Mais enfin, la poule a... La poule parle, elle a un langage. Et à un certain moment, elle réagit différemment. Lorsqu'on lui lance du maïs, lorsqu'elle vient de pondre.
Oui, mais enfin, je crois que là, il ne faut pas... Enfin, la poule, comme... Enfin, chez les volailles, comme les autres espèces, il y a des cris qui correspondent à certaines situations, ça c'est sûr. Un langage, au moins, peut-être un peu fort.
Que vous inspire cette archive, Xavier Galmich ?
Ah ben bien sûr, la question de la phonation, elle est très importante. Les spécialistes disent qu'il y a jusqu'à 20 phonations différentes pour, selon les circonstances. Bon, la question de l'interprétation, elle est toujours ouverte, mais c'est vrai qu'il y a en particulier une vocalisation très... satisfaisante, c'est celle de la poule, je pense que tout le monde l'a entendu, qui vient de pondre, avec cette espèce de soulagement, effectivement soulagement physique, j'imagine, et quelque chose de l'ordre de la béatitude. Il y a l'idée du travail bien fait et bien fait.
Alors la poule, ça n'est pas un volatile des plus gracieux, c'est même plutôt un oiseau empêché, avec ses grandes ailes qui sont plus ou moins inutile. Est-ce que c'est important, ça, dans la vie de la poule et dans le rapport qu'on a avec elle et dans la façon dont on la voit ?
Alors, bien sûr, moi, je vais m'insurger contre cette mauvaise renommée qu'on fait aux poules, qu'on trouve laides parce que elles sont effectivement des oiseaux qui ont cessé de voler, qui leur donnent ce côté un petit peu pataud et un peu affairé.
Mais elles ont volé.
Elles ont volé et il y a quelque chose de l'ordre d'une sorte de majesté un peu nostalgique, un peu mélancolique de cet envol qui n'est plus. Et cela donne à certaines une sorte de gravité dans laquelle on peut reconnaître de la beauté.
Donc vous voyez aussi dans la poule un animal très ancien qui était déjà là, bien avant nous, du temps des dinosaures.
Quand vous... tout le monde peut faire l'expérience. Dans le squelette de la poule, il y a une petite queue en bas du croupion dont on dit que c'est le reliquat d'une queue de dinosaure. Et quand vous regardez de l'autre côté le crâne et que vous vous laissez un peu rêver... Vous discernez, c'est plus visible chez les dindes, quelque chose comme des animaux préhistoriques qui peuvent être très menaçants.
Parmi les personnalités qu'on peut peut-être trouver dans votre poulailler, je crois qu'il y en a que vous qualifieriez volontiers de pimbèche. Pour quelle raison ?
Alors la pimbèche, malheureusement, j'ai pas utilisé le mot dans mon livre, c'est un regret. La pimbèche, j'y a quelque chose de très raisonneur chez la poule, c'est-à-dire il y a toujours ce bec dressé en l'air. Ce sont des considérations, je crois, de surveillance. Les poules, comme tous les oiseaux, surveillent leur environnement. Et donc la poule au bec dressé qui lui donne un air qui lui a valu une mauvaise réputation, mais c'est en fait un air de curiosité, d'interrogation presque philosophique face au monde. Elle cherche à analyser. Et il se trouve que le mot pimbèche, étymologiquement, vient d'un verbe. Donc il y a à la fois pincer et il y a bêcher en ancien français qui veut dire picorer.
Une poule sur un mur artificiel, c'est du pain dur. Picotis, picota, lève la queue et puis s'en va.
Mais malgré tout, les signaux que peut émettre une poule sont plus variée qu'on ne le croit généralement. Bon, chacun connaît le signal qu'elle émet pour rassembler ses poussins, qui est quelque chose de relativement très discret, très bas. Chacun connaît l'espèce de cri absurde qu'elle pousse une fois qu'elle a pondu son œuf. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez paradoxal. Parce que...
Ça l'étonne, non ? De pondre.
Mais c'est très curieux, parce que... Non, on peut pas parler d'étonnement, là. Le psychisme des poules, c'est vraiment inexistant. Mais ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi une poule chante une fois qu'elle a pondu un œuf. Tous les oiseaux sauvages, lorsqu'ils ont un nid, sont extrêmement discrets. Et on comprend bien l'intérêt de cette discrétion, parce que s'ils ne sont pas discrets, immédiatement les prédateurs repèrent le nid, viennent bouffer les œufs, et puis c'est terminé. Tandis que la poule qui vient de pondre son œuf, elle s'en va des fois discrètement de son perchoir ou du poulailler, mais elle est à peine sortie qu'elle se met à chanter et à prévenir alentour qu'elle a pondu son œuf. Alors on ne voit vraiment pas par quelle aberration un comportement pareil a pu être retenu.
La poule est généralement considérée comme un animal peu intelligent. Son comportement d'après la ponte que vient de décrire le chercheur au musée de l'homme André Langanet dans cette archive de 1980 semble donner raison à cette réputation. Mais le coq n'est pas non plus toujours considéré comme un prix Nobel. Voici ce qu'écrivait à son sujet Buffon, naturaliste du XVIIIe siècle, dans son Histoire naturelle. Le coq est un oiseau pesant dont la démarche est grave et lente et qui, ayant les ailes fort courtes, ne vole que rarement et quelquefois avec des cris qui expriment l'effort. Et plus loin, il dort le plus souvent un pied en l'air en cachant sa tête sous l'aile du même côté. Rien de bien valorisant pour ce pauvre animal. Xavier Galmiche, est-ce que vous en voulez à Buffon et aussi à ce chercheur du Musée de l'Homme qu'on écoutait en archive de parler de cette manière d'un animal que vous appréciez ?
Oui, bien sûr, je pense qu'il y a quelque chose d'utilitariste finalement dans la tradition des naturalistes depuis l'âge moderne et cette vision très hiérarchique. Elle est générale, je pense que c'est aussi le fait de notre génération, de notre temps, qui a fait quand même des animaux une sorte de thème mainstream. Hein. C'est l'altérité en tant que telle, enfin, c'est le lot de cette génération de casser ce stéréotype, c'est-à-dire d'abandonner un petit peu le préjugé social pour essayer de comprendre la nature dans sa naturalité. Et c'est vrai qu'il faut peut-être partir du plus décrié des animaux pour trouver l'altérité en tant que principe supérieur.
Le coq est peut-être moins décrié que la poule, on en a même fait l'emblème national de la France. Pour quelle raison ?
C'est l'idée de l'orgueil, de la conscience de soi, fière, et voilà, qui s'affirme. Mais il y a quelque chose, je trouve, de courageux dans le fait qu'une nation prenne cet emblème.
Parce que c'est pas un aigle quand même.
C'est ni un aigle, ni un lion. Il y a trop de lions, je pense, dans l'héraldique. Et je trouve que c'est plutôt un aspect sympathique de la symbolique française, ouais.
Qui n'est poule m'a gratté.
On retourne fouiller dans la section avicole de la salle des archives.
Et tous ces poulets sont pour votre consommation familiale ou...
Ça, c'est pour notre consommation, oui. Je vendrai les autres, l'autre lot qui vient après. Cela, c'est pour mon congélateur.
Le congélateur, ça a dû vous changer la vie aussi.
Ah oui, ça nous a changé l'économie aussi.
Ah oui ?
Ah oui, ça oui.
Françoise Perasso, 40 ans, 40 hectares à Lamasquère.
Bon, j'en ai une autre nichée, là, sous l'hangar. Le petit poulet.
Vous avez quoi comme bête, là, dans la ferme ?
Les vaches laitières et quelques poulets. Un cochon familial aussi, enfin, pour la famille aussi. Mon mari ne s'en occupe absolument pas, sauf pour les manger. Là, quand même, il se présente. Nous, on s'y attache énormément aux bêtes. Même pour tuer les poulets, moi, il faut le faire, je le fais, mais vraiment, ça ne me dit rien.
Xavier Galmiche, votre regard sur cette dernière archive ?
Évidemment, c'est l'épreuve de vérité. Personnellement, je tue mes poules, je l'ai beaucoup décrit.
Parfois, vous vous trompez, vous ne tuez pas la bonne poule, voilà, celle qui devrait être tuée parce qu'elle est malade.
Parce qu'elle est malade, donc il y a des... En plus, on est un mauvais bourreau. Et une vraie question, c'est la technique. Comment faire pour être sûr que la technique qu'on a choisie, moi je les égorge, est effectivement celle qui leur fait le moins mal. Le moins longtemps possible. Mais je pense que par ailleurs, il y a ce moment d'égalisation des destins et que on ne peut pas ne pas sacrifier sans penser à son propre sacrifice et que il y a quelque chose de l'ordre de la légitimité, c'est-à-dire on a le droit de manger des poules si une fois on en a tué.
George Orwell a consacré un peu plus d'une page à décrire sa révolte des poules dans la ferme des animaux. C'est peu, mais l'épisode est marquant. Il suffit à donner à ces animaux une personnalité plus forte que celle des moutons, par exemple. Les moutons qui ne réfléchissent jamais et se contentent de scander le slogan que leur ont appris les cochons « 4 pattes oui, 2 pattes non ». C'est peu de dire que le mouton n'est pas mis en valeur sous la plume de George Orwell. Il est l'animal suiviste par excellence, celui qui se fait endoctriner par les discours de Bril Babil, le cochon de la propagande, le cochon Pravda. Les moutons n'ont donc pas un très grand rôle dans la fable, et pourtant ils sont omniprésents. Sans eux, c'est-à-dire sans la masse des suivistes, le régime des cochons ne pourrait pas se maintenir. Mais l'absence qui frappe le plus dans la ferme des animaux d'Orwell, c'est celle des vaches. Comment peut-on imaginer une ferme sans vaches? Et pourquoi n'y a-t-il pas non plus de bœufs, ni de veaux, ni de taureaux chez Orwell? Est-ce seulement la fantaisie de l'auteur? Pas si sûr, comme nous allons le voir dans le prochain épisode qui porte sur la représentation dans notre société de la famille des bovins, et sur la vache en particulier. C'était La Ferme des Animaux, une série de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Delphine Lemaire, attachée de production Lily Corner et Anne-Vanessa Prévost, prise de son Éric Perruchot-Triboulet, mixage Dofar Guéride. Thank you.